De retour à l'émission Au gré du temps, avec nous aujourd'hui, le docteur Jean Léveillé. Docteur Léveillé, cette crise des isotopes a démontré notre vulnérabilité à l'égard des autres, à l'égard de certaines technologies qui sont nôtres, mais aussi à l'égard des autres, parce que la perception des autres pays, c'est peut-être que le Canada n'était pas un pays fiable au plan des approvisionnements.
Bon, alors, quand on connaît le domaine, on savait que la centrale de Chalk River était vieillissante. Donc, on a bâti deux nouvelles centrales. Alors, les autres pays savaient qu'on bâtissait quelque chose. Donc, ils ne se sont pas énervés en disant « Oui, quand la vie de la première centrale va être terminée, il y en aura deux autres qui vont nous permettre de faire ça comme il faut. » Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison d'avoir arrêté le processus d'évolution. C'est là où c'est scandaleux. Et c'est ça qui choque les autres pays. Quand on rencontre des confrères dans les autres pays, ils nous disent « Voulez-vous même dire à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous faites? Vous les avez, c'est pratiquement terminé, c'est prêt à produire. Pourquoi vous ne continuez pas? » C'est la même chose que le projet Arrow. Pourquoi on s'est arrêté? Est-ce que le bras canadien, on doit arrêter ça? Vous voyez qu'on... Bon, on ne peut pas bâtir des navettes, on ne peut pas bâtir des stations spatiales, mais on peut avoir notre... Je pense qu'on doit être fier comme Canadien d'avoir un bras qui permet de faire tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, dans ces domaines-là, on peut avoir des rôles modestes, mais de la première importance.
Mais pourquoi avoir abandonné si rapidement, d'avoir dit ben, « dorénavant, ce ne sera plus nous ».
Moi, je pense que... Moi, je vais vous dire, on est très, très dépendant des politiciens. On dit pourquoi les politiciens prennent des décisions. Moi, je connais beaucoup de politiciens, mais dans le fond, le politicien, la première chose qu'il fait, c'est de regarder le sondage, puis il regarde si la population est favorable à ça. Le grand problème canadien, à mon sens, c'est l'absence de connaissance. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quels sont les enjeux. Aujourd'hui, on vit, oui, on reçoit des isotopes, oui, j'ai eu mon examen, puis d'ailleurs, c'est une des caractéristiques de quelqu'un qui a une maladie. Aussitôt que la maladie est guérie, on essaie d'oublier ça, on n'aime pas l'hôpital, on ne va pas là pour s'amuser, on ne va pas là pour voir s'il travaille, c'est pas très sympathique comme lieu, donc on va visiter un malade, puis on a hâte de s'en aller parce qu'on dit, bon, puis on souhaite de sortir d'ici bien vite, puis la première chose que le malade nous demande quand il arrive, quand est-ce que vous allez me donner mon congé, hein? Donc on est pressé d'oublier tout ça. Et moi, je pense que le politicien sent pas auprès de la population l'importance de tout ça.
Mais si on relativise tout ça concrètement, parce qu'on a tout entendu à travers cette crise, entre autres que, bon, des malades seraient retardés au plan de leur traitement. Il en demeure pas moins que des isotopes, il y en a quand même de disponibles au plan des centres hospitaliers. Est-ce que la crise est vraiment une crise majeure?
Oui, écoutez, on reçoit des avis. Là. Je pense que le mois d'août va être un mois terrible. Parce que, évidemment, les réacteurs qu'on a bâtis ailleurs ont besoin d'entretien aussi. Vous savez que la Hollande va faire un entretien d'à peu près un mois là, prochainement. Donc, une partie de la production va baisser encore. Et à un moment donné, ça a des répercussions énormes. C'est d'ailleurs ça. Si ça vous intéresse, vous enverrez le document américain qui prie les sénateurs de faire quelque chose parce que ça va devenir très grave. Maintenant, encore une fois, le problème du malade, c'est qu'il est isolé. Le malade dit « Dépêchez-vous à guérir mon problème », puis après ça, il oublie ça. Alors, ceux qui passent des examens actuellement disent « Bon, ben dépêchez-vous à faire mon examen. » Ceux qui ne passeront pas ne sont pas conscients des... je vais vous donner un exemple.
Mais comment, j'allais vous dire, comment se fait-il qu'ailleurs... on ne se soit pas assuré de développer aussi une telle production et qu'on a compté uniquement sur le Canada.
Donc, ils nous disent, on a fait une erreur. On vous connaissait mal. Vous n'êtes pas fiable. On s'est fié à vous. C'est un peu comme dire, écoutez, regardez là, l'industrie automobile, on se fie sur les Japonais, on se fie sur les Américains, on se fie sur les autres pays. Si demain matin, ces pays-là...
On a mis tous ses œufs dans le même panier.
On a fait une erreur. Aucun doute qu'on a fait une erreur. Et encore une fois, pourquoi cette erreur-là s'est produite? C'est parce que le Canada est devenu par accident un producteur nucléaire pacifique. Et probablement qu'il aurait été mieux à l'époque de diversifier.
Et ça, ça m'amène aussi à cette question. Comment se fait-il justement que ce pan de l'histoire était méconnu? Vous nous apprenez quelque chose que personne, je pense, pouvait soupçonner quant au développement, à l'histoire du développement du nucléaire au Canada?
Si vous me permettez d'être un peu choqué, je pense qu'une des plus grandes faussetés qu'on vit au Québec, c'est notre devise « Je me souviens ». On n'a pas connaissance de ce qu'a été l'histoire. On connaît des faits divers, mais « Je me souviens », on ne sait pas. Et c'est là où il faudrait reprendre bien des aspects. Je vous donne l'exemple du CHUM.
Oui.
J'ai vécu au CHUM. J'ai quitté parce que, personnellement, j'étais fatigué, comme beaucoup de mes confrères. Le premier CHUM a commencé en 1927. On a fait d'énormes campagnes publiques. Les gens ont donné beaucoup pour bâtir ce fameux CHUM-là. Est-ce qu'on connaît l'histoire du CHUM? Est-ce qu'on connaît l'histoire de l'Université de Montréal? Est-ce qu'on... On connaît pas notre histoire et l'histoire du nucléaire, on la connaît pas plus que le reste de notre histoire. Donc, c'est une tristesse et vous savez, je suis très impressionné. On connaît pas le passé, mais tout le monde est anxieux de connaître l'avenir. On va voir des devins, des gens qui lisent sur les cartes, etc. Donc, le passé nous intéresse pas, le présent, on a hâte qu'il finisse et ce qui nous préoccupe, c'est le futur. C'est très, très bizarre parce que je pense qu'il faut souvent éviter de faire les erreurs du passé au moment où on planifie l'avenir.
Et même dans votre communauté dite médicale. Je connais particulièrement un pathologiste qui se questionne beaucoup sur l'éthique, sur la façon d'organiser, de penser la médecine et qui souvent se désole de voir des collègues qui, dans le fond, se préoccupent davantage de leurs revenus ou de la façon d'être plus confortable dans la vie.
Vous abordez quelque chose d'assez important. Et à mon sens, vous savez, on a misé beaucoup sur l'individu, on a oublié la collectivité. Et si moi j'ai un emploi, si moi ma maladie guérit, c'est ça qui est important. C'est pas, on a occulté beaucoup l'aspect collectif. On est devenu une société où l'individu prend une importance raisonnable, mais qui ne devrait pas occulter le bien
collectif. Où l'hédonisme est très présent.
Oui, effectivement. Donc, la connaissance de l'histoire, la connaissance des enjeux, je vous dis, les enjeux actuels, tout ce que les gens nous disent, où est-ce que je vais avoir mon isotope pour mon examen? Oui, aujourd'hui. Mais c'est quoi l'avenir demain pour les jeunes qui nous suivent? Le jeune informaticien, le jeune chimiste, le jeune radiochimiste, le jeune radiopharmacien, où est-ce qu'on va l'envoyer? Il y a eu par chance la NASA pour accueillir les gens du groupe Arrow, ou du moins une partie. Si on abandonne les isotopes, on fait une erreur. Si on abandonne le bras canadien, on fait une erreur. C'est des jobs de haut niveau, c'est des projets de recherche. Et c'est là où je suis triste de ne pas voir de programmes à la télévision, à la radio, qui expliquent un peu plus les enjeux à la fois scientifiques, mais
à tout le moins, aujourd'hui, vous avez l'occasion de pouvoir l'exprimer.
Et j'en suis très content. Et j'espère que ça va surprendre un peu les auditeurs de savoir pourquoi le Canada est actuellement la cette position-là, parce que c'est un cadeau de l'histoire, mais on n'a pas su l'apprécier.
Vous parliez de la devise québécoise, je me souviens, s'il y a un Québécois qui, lui, s'est souvenu et dont on doit se souvenir, c'est bel et bien Félix Leclerc. S'il y a une chanson qui, particulièrement, vous traversait l'esprit quand il est question de Félix Leclerc, vous pensez à laquelle?
Moi, mes souliers.
Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau, des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, payé le bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever. mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi, mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné.
Avec nous aujourd'hui, le docteur Jean Léveillé, qui nous parle de plein de choses au plan de cette crise des isotopes. Mais j'allais vous dire, la communauté médicale, vos collègues, ne sont pas très différents de la collectivité parce que souvent, on a l'impression qu'il y a une espèce d'indifférence à l'égard des problèmes collectifs. Est-ce que j'ai tort quand
Moi, je dirais que c'est plutôt une méconnaissance. En fait, le politicien, l'économiste, vous savez, on vit une crise économique et tout le monde dit « j'espère que ça va reprendre ». On se dit, on sait tous que si ça reprend, ça va nous prendre des ressources naturelles de trois planètes. On est en train d'user cette pauvre planète. Est-ce qu'on s'en préoccupe? Est-ce qu'on se dit, oui, on va faire attention? Bien, dans le domaine médical, c'est un peu la même chose. On vit aujourd'hui, on vit bien, c'est correct. C'est pas un reproche, c'est une attitude. Je pense qu'on va devoir progressivement, à tous les niveaux, au niveau des économistes, au niveau des politiciens, au niveau de l'ensemble de la population, revoir le discours. Et dans le domaine des isotopes, c'est une forme d'appel. Revoyons notre discours actuel. Évaluons les enjeux. C'est pas seulement le malade qui a pas son examen. C'est toute une collectivité qui est en train de perdre un domaine d'avenir.
Je ne peux pas m'empêcher, Dr Léveillé, de vous parler du CHUM. De votre vision, ça fait des années, vous l'avez dit, le CHUM est une idée qui remonte aux années 20. Est-ce que ce CHUM va un jour se concrétiser? On a essayé, dit-on, de marier trois cultures au départ, les trois hôpitaux, Saint-Luc, l'Hôtel-Dieu, Notre-Dame. Vraisemblablement, cela n'a pas fonctionné au cours des dernières années. Maintenant, on parle de la construction d'un centre hospitalier dans de la brique, mais est-ce que le mariage se fera? Est-ce que ce CHUM verra le jour?
Je pense que vous allez devoir me réinviter à plusieurs reprises pour que je parle, mais je vais vous dire, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Bon, j'ai été au Conseil des médecins, j'ai été président du Conseil des médecins au moment où ça s'est fait, j'ai été au Conseil d'administration, et on avait eu la prudence de faire quelque chose de très intéressant. On avait invité des spécialistes de la fusion. Comment une compagnie réussit? Et au HCCO, d'études commerciales, il y a des grands spécialistes de ça. Et je me souviens d'une retraite fermée qu'on avait faite à l'île Charon où on avait écouté ces gens-là.
C'est presque religieux, tout ça.
Oui. Et il nous avait dit, voici les ingrédients pour qu'une fusion réussisse. Comment une compagnie réussit à en absorber une autre? Je vous donne un exemple. Il y a une compagnie, je ne les nommerai pas pour ne pas faire Bon, il y a une compagnie qui arrive, qui achète une autre compagnie, puis ils disent, bon, nous voici, nous sommes très puissants. Oubliez votre compagnie, le sigle est changé, etc. Oubliez tout ce que vous avez fait. Et maintenant, vous appartenez à telle compagnie. C'était un échec. Il y a une autre compagnie qui a repris ça par la suite qui a dit, oui, nous autres, on veut ajouter un plus à notre compagnie. Vous êtes des gens très intéressants. Vous allez garder votre entité, votre identité. Et là, nous, on fait des coques de bateau. Vous, vous faites des voiles et on va associer les deux et on va faire un très beau voilier. Donc, on avait un projet. Et les gens des HCC nous ont dit, il faut dire Saint-Luc a des grandes qualités. L'Hôtel-Dieu a des grandes qualités. Notre-Dame a des grandes qualités. Et on va vous associer pour accroître. Donc, il faut présenter un projet d'avenir. Ce qu'on a fait dans cette opération-là, si vous me permettez l'expression, on a fait du cannibalisme. Et on a dit à Saint-Luc, mange des choses à l'Hôtel-Dieu. Pour moi, c'était une opération de cannibalisme au lieu d'être une opération de progression. Et les gens des HEC, les spécialistes des fusions, nous avaient dit quels étaient les ingrédients pour réussir. Et moi, j'étais allé les trouver après en disant, est-ce que les gens qui ont planifié cette opération-là, par exemple, les fonctionnaires de Québec, sont au courant des ingrédients qui font qu'une fusion réussit? Et la réponse, ça avait été non. Alors moi, je pense que la planification de tout ça n'a pas été faite selon des règles bien connues. Et ça aurait été très important qu'on fasse venir les spécialistes des HEC avant de faire ces fusions-là en disant quels sont les ingrédients qui permettent de réussir.
Mais néanmoins, maintenant, est-ce qu'on peut croire que ce CHUM va se concrétiser?
Écoutez, moi, personnellement, et c'est une opinion tout à fait personnelle, j'ai quitté parce que j'y croyais plus.
C'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Je ne pouvais pas vendre à mes confrères quelque chose auquel je ne crois plus.
L'autre question auquel les citoyens sont en droit de vraiment porter un regard, c'est est-ce que nous avons besoin de deux grands centres hospitaliers universitaires?
Bon, là, il y a beaucoup... Vous allez encore m'inviter pour une autre heure. Mais moi, je vais vous dire que je pense que la dualité linguistique est un atout majeur dans une optique mondiale. Il ne faut pas voir ça uniquement avec une vision du Québec. Je pense que c'est un atout majeur. Je pense qu'on voit l'arrivée de gens de différents pays. On voit que c'est un ajout. Donc, il faudrait trouver les moyens pour que cet ajout-là de la dualité culturelle devienne un enjeu majeur. Ça attire énormément de gens des autres pays de savoir qu'il y a deux langues importantes. Le français, c'est quand même pas une langue banale au niveau mondial. L'anglais, encore moins. Et à ce moment-là, là aussi, il faut avoir des spécialistes qui nous permettent de dire comment est-ce qu'on fait cet amalgame pour que ça soit un plus pour tout le monde, au lieu d'être une espèce de, encore une fois, de cannibalisme. Il n'est pas question pour moi que les gens de Montréal se fassent manger par les gens de McGill ou inverse. Donc, pourquoi pas trouver les ingrédients pour que ça devienne un atout majeur, qu'on devienne une espèce de pôle d'attraction dans le domaine de la médecine au niveau mondial? Et c'est ça qu'on oublie. Dans le fond, moi, je pense qu'on voit juste, on oublie de faire ce que Julie Payette fait, s'élever un peu, regarder la terre. On voit, oui, notre rue Saint-Urbain, notre Russie, et on oublie de voir globalement. Et c'est là où j'aime beaucoup Julie Payette. Julie Payette est une femme de grande ambition. Qu'une Québécoise a réussi à se rendre à ces niveaux-là, c'est extraordinaire. C'est une femme d'une vision exceptionnelle, d'une ténacité incroyable. Donc, si on avait plusieurs conseillers qui nous guident pour nous dire oui, là, on s'arrête, tout le monde se calme et on va faire quelque chose de très, très constructif pour Montréal, pour le Québec, pour le Canada, bien, je pense que là, on réussirait au lieu de faire des antagonistes comme ce qu'on fait actuellement.
Mettons un baume sur tout cela. Vous parlez de Julie Payette. Allons dans l'espace. Cet extrait de Jupiter, des planètes de Holst.
Thank you.
Alors, docteur Léveillé, on va boucler la boucle, si vous me permettez, parce qu'au cours des deux dernières semaines, on a parlé des oiseaux, on a parlé, bien sûr, de médecine, d'histoire. Mais si on revient aux oiseaux, est-ce qu'il y a une quête particulière au plan des découvertes que vous cherchez à atteindre?
Ce qui me fascine, c'est l'énergie que les oiseaux mettent à se séduire, à se plaire. Quand un mâle et une femelle se rencontrent, selon les espèces, il y a énormément de manifestations. Il y en a qui dansent, il y en a qui chantent, il y en a qui se font des cadeaux. Et un des oiseaux qui me fascine le plus, c'est le paradisier, donc l'oiseau du paradis qui vit dans des îles isolées au large de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Quelle énergie met un mâle pour attirer l'attention? Et ce sont des oiseaux qui me fascinent.
Nous, les humains, nous avons à apprendre beaucoup d'eux à travers les difficultés qu'on traverse, que ce soit au plan des isotopes ou au plan même de notre vision du développement de la société.
Alors, vous savez, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'étudiants et je leur dis, ne vous inquiétez pas, on est au tout début de nos connaissances et il reste encore beaucoup de choses à apprendre.
Docteur Léveillé, un grand merci pour cette présence au cours des deux dernières semaines. Ce fut fascinant et je pense qu'on pourra éventuellement vous réinviter parce que je sens en vous cette fébrilité de vouloir raconter et dire les choses.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'émission Au gré du temps. Nous recevions le docteur Jean Léveillé. Armand Dubois au micro. Passez une excellente semaine. Émission réalisée sous la supervision d'Alain Primeau. Au plaisir. Au revoir.